Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ah, vous les adorez, les BCG. Je ne suis pas un BCBG, je ne le serai jamais. Je dois faire le beauf de service parce que vous aimez que les beaufs. Je ne suis pas aimé, c'est pas grave.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
21h59 et l'after continue jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et avec Coach Courbis avec nous dans l'after. De toute façon, comme c'est exceptionnel, en guest star. Salut.
Oh là là, oh, quel honneur. Bah, en tout cas, je suis content d'être avec vous.
Bah ouais, on est content nous aussi. Surtout quand voilà, il y a plein de sujets qui vont t'intéresser. Tu vas voir ce soir.
Ah, j'ai compris maintenant pourquoi j'ai été invité. D'accord. les gardiens de but.
On va parler de la réorganisation des dirigeants à l'OM dans quelques instants avec Florent Germain. Vous allez tout savoir sur les barbouzes du PSG, la dernière affaire en date. Christophe Galtier qui réagit aux accusations de Julien Fournier, c'était hier soir avec nous dans l'after. Genesio qui se compare à Peter Boss, c'est dans l'envie de la. Et ça fait un gros débat à Lyon ces derniers jours. On va en parler. Peter Boss, ancien joueur de Coach Courbis, quand même le rappeler, à Toulon. Eh oui.
Ben oui.
D'ailleurs, quand on voit les photos de Peter Boss joueur à Toulon, on ne le reconnaît pas. On se dit, c'est le même gars. Ben ouais, c'est bien lui.
Ben écoute, si tu me regardes moi aussi, tu me reconnais pas.
Ouais, mais nous, on te voit tous les jours, donc du coup, ça ne marche pas. Et puis donc cette question en effet, en 2022, qu'est-ce qu'un bon gardien ? On en débattra tout à l'heure parce que je sais que Roland c'est ton poste préféré, en tout cas le poste que tu regardes en premier.
Ça me paraît être le poste peut-être pas le plus mais très important d'une équipe de football.
Et on en a encore débattu autour de l'équipe de France cette semaine, on sera... avec, vous allez voir, un spécialiste tout à l'heure ça vous parlera. En tout cas, on a déjà parlé de lui dans l'after. Je vous fais la surprise, ce sera tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Le hashtag RMC Live est là, sur Twitter, Direct Studio, sur nos applis RMC, RMC Sport, bien sûr, Direct Studio, là, est devant moi. On réagit encore à la chronique de Jimmy sur Jacques-Henri Arrault sur Direct Studio. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et puis, évidemment, les comptes Instagram, Snapchat de l'after sont toujours disponibles. Florent Germain, en direct de Marseille, est avec nous. Florent, bonsoir.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Florent.
Alors, tout à l'heure, Romain Calutti nous parlait d'Igor Tudor, on va en dire un mot tout à l'heure, mais on voulait t'avoir pour comprendre la réorganisation des dirigeants à l'OM. Parce qu'on apprend, quand on apprend que McCourt n'est plus l'homme qui dirige la structure, on va dire, fêtière, comme on dit, du club, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Donc il faut que tu nous décryptes ce qui s'est passé aujourd'hui.
Bah, c'est assez logique. C'est vrai qu'il y a eu un peu d'émotion suscitée par cette information, la démission du boss Franck McCourt du conseil de surveillance. Mais après, sauf si on nous cache quelque chose et peut-être que à moyen terme, on se rendra compte que c'était un mouvement important pour l'avenir de l'OM. Mais honnêtement, j'en suis pas persuadé. Tout ce qui nous revient, c'est que il s'agit uniquement d'une réorganisation interne qui n'a aucune conséquence sur son engagement.
Ça, c'est ce qu'on te dit.
Non. C'est ce qu'on me dit. Oui, mais c'est pas forcément l'Olympique de Marseille ou les proches de McCourt qui me le disent. C'est différentes sources.
Non, mais c'est ça que je voulais savoir. C'était, je voulais procéder par étapes. Je veux dire, c'est pas un discours. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que tu as vérifié. Quoi.
C'est ce que j'ai vérifié.
Voilà, c'est ça que je voulais que tu dises. Voilà.
Donc voilà, de personnes qui, si c'était le contraire, seraient capables de me le dire. Donc voilà, que le statut d'actionnaire ne change pas, évidemment, pour Franck McCourt, c'est toujours le boss. Il met en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le nouveau président de ce CS, du conseil de surveillance, c'est Barry Cohen. C'est un intime, un très proche de Franck McCourt. Il est là depuis le début, depuis le rachat. Et il faut presque même voir les choses d'une autre manière, c'est que Franck McCourt, il était au conseil de surveillance, mais quelque part, il n'avait rien à y faire parce qu'il n'avait pas le temps véritablement de mettre le nez dans les finances de l'OM, ou alors pas avec autant de sérieux et de poids que peuvent le faire Jeff Ingram et surtout Barry Cohen, qui désormais est donc le président de ce conseil de surveillance. Donc en fait, en mettant des proches à lui... C'est pareil, voire un signe plus fort que ses proches vont y passer du temps, vont désormais avoir un rôle très clair de superviser, de surveiller, comme son nom l'indique, les finances du club. Parce que Barry Cohen, c'est pas un tendre. Hein. Barry Cohen, c'est quelqu'un qui...
Barry Cohen des frères Cohen.
Quand Pablo Longoria quand Pablo Longoria et Pedro Iriondo, qui est le grand DG ou le directeur stratégique de l'OM.
Il y a beaucoup de directeurs quand même, dans l'organisation de l'OM.
Ouais. Pas mal. Ouais. Quand ils ont dû rendre des comptes récemment ou faire le point un peu financier, c'est justement envers Barry Cohen et Jeff Ingram qu'ils avaient dû expliquer tout cela. Ils s'étaient déplacés aux États-Unis. Ils n'ont pas rencontré Frank McCourt. Donc en fait, Barry Cohen, président du conseil de surveillance, c'est le vrai bras droit de Frank McCourt. Donc il y a malgré tout très clairement la volonté de McCourt de rester très impliqué, de surveiller le club. Le groupe McCourt, c'est pas que l'OM. Hein. Enfin, faut quand même le rappeler. Nous, on est des passionnés, on parle ballon à longueur de journée, mais le groupe McCourt, ce sont énormément d'activités. L'OM en est une de ces activités et McCourt, il n'avait pas le temps de véritablement être opérationnel dans ce conseil de surveillance. Donc c'est finalement okay. Un choix interne qui est plus logique par rapport à ce qui se passait en interne. L'autre info concernant le conseil de surveillance, je sais pas si vous en avez parlé dans les deux heures précédentes, mais en tout cas c'est que selon nos infos, il y a de grandes probabilités que Jacques Anhiéraud quitte le conseil de surveillance. C'était en tout cas en discussion encore aujourd'hui avec.
C'était l'objet de la chronique de Jimmy. On lui a rendu un hommage appuyé avec ses plus grandes punchlines de l'histoire.
Ce n'est pas acté, c'est pas encore définitif, mais ça peut présager deux changements aussi au conseil d'administration de la Ligue, parce que si jamais il n'est plus au conseil de surveillance, Jacques Anhiéraud, il ne pourra pas siéger à la Ligue, à la Ligue de football professionnel. En revanche, Pablo Longoria a plus d'un an de présidence. Donc, si Jacques Anhiéraud quitte le conseil de surveillance et donc le conseil d'administration de la Ligue, il y a de fortes probabilités que Pablo Longoria éventuellement siège à l'avenir.
Il pourrait y avoir quand même un petit compliment pour Jacques Anhiéraud, c'est d'avoir mis Longoria.
ça c'est un peu ton raccourci quand même depuis quelques mois.
Il a jamais.
C'est pas lui qui allait le chercher, hein.
C'est qui, c'est moi
qui allait le chercher. C'est pas lui. Il avait mandaté une société.
Société de chasseurs de tête.
Chasseurs de tête. Ouais.
On lui a mâché le travail, on va dire.
Exactement. Et Jacques Anhiéraud ne connaissait pas ou à peine Pablo Longoria quand il est arrivé au club. Donc c'est vrai que tu as souvent dit ça, coach. Mais
ben oui, parce que je pensais peut-être naïvement que il avait peut-être chargé des gens d'aller chercher et peut-être quand même il a rencontré avant de le faire signer, non?
Oui, non, mais je dis pas qu'il a eu aucun rôle, parce qu'effectivement, il a forcément été consulté, il a validé le profil. Je dis pas le contraire, mais on peut pas non plus dire que c'est Jacques Anhiéraud qui.
Bon, allez, alors d'accord, ça va, c'est bon. Il a rien fait de bien. Non,
j'ai pas dit ça du tout.
Moi je le dis, rien de bien, non, ça c'est sûr. Zéro complet.
Cela dit,
je sais pas.
On est arrivé à son objectif parce qu'il disait qu'il y avait trop de Marseillais au club, maintenant avec des Espagnols. Donc finalement il a réussi, non ?
Ce qui crée quelques tensions au club, parce que je peux pas vous cacher qu'en ce moment l'ambiance est très tendue au sein de l'Olympique de Marseille. Voilà, faut appeler un chat un chat. Hein. Il y a une deuxième place au classement en Ligue 1 qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais au sein de la commanderie c'est très tendu à tous les niveaux. Là ce soir il y avait
ça c'est intéressant, Flo, arrête-toi deux secondes là-dessus, explique-nous ça quand même.
C'est tellement un panier de crabes que c'est difficile de le décrypter.
Mais pourquoi panier de crabes? Qui sont les crabes?
Il y a des tensions entre différents clans entre guillemets au sein du club. Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir, enfin le soupçonne de vouloir faire un petit peu le ménage et avec ses associés espagnols, Javier Ribalta, Pedro Iriondo, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur que il pourrait y avoir des départs. Donc ça crée des tensions. D'autres reproches à Pablo Longoria de pas suivre la feuille de route de l'actionnaire et de pas avoir suffisamment vendu cet été, de pas savoir non plus pendant combien de temps véritablement Pablo Longoria restera au club, enfin, et s'il sera s'il est capable effectivement de faire ce ménage là en interne avec beaucoup de modifications, voilà, pour quel objectif, hein, voilà, il y a beaucoup de tensions et beaucoup de questions qui se posent en ce moment.
C'est étonnant ce que tu nous racontes, parce que bon, on avait quand même une image un peu idyllique, genre Longoria, l'homme de la situation, le passionné de foot, les réseaux, la connaissance. Ça peut paraître assez surprenant.
Bah, ce que tu dis, en quoi ce que tu dis là contredit ce qui a été dit avant, le fait qu'il veuille faire le ménage, ça.
Ce qui est surprenant, c'est que l'image qu'on a généralement de l'OM, c'est plutôt un club serein qui fonctionne parce qu'il y a un président qui est efficace. Et là, en l'occurrence, ce que nous décrit Flo, c'est pas ça.
Non, mais en fait, il y a un secteur sportif qui fonctionne très bien. Enfin, il y a un mercato qui a été assez, qui est plaisant, pour le moment est efficace en championnat aussi, enfin surtout en championnat, un peu moins en Ligue des Champions, mais voilà, je souhaite vous alerter sur le fait que il faut pas croire que tout est rose à l'Olympique de Marseille, qu'il y a certaines tensions. Il y a eu une réunion c'est vrai en tout début de trêve internationale où Pablo Longoria et ses équipes ont expliqué qu'il allait falloir absolument faire des économies en interne, dans le fonctionnement interne, ça a fait grincer quelques dents, justement, par rapport au fait que il y avait eu quand même un mercato qui avait été très actif, et peut-être qu'on n'avait pas assez vendu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est on est dans une période plus trouble qu'on peut le croire, bon. En tout cas que le sportif,
et avec répercussions sur le sportif possible, tu vois l'évolution
pour
de
le moment, pas forcément pour le moment, pas forcément, puisque on a quand même une bulle avec le secteur professionnel, Igor Tudor, qui lui ne se soucie absolument pas de tout ça. Donc moi je peux pas te garantir que, enfin, te dire que ça aura un impact sur le secteur sportif, mais c'est vrai qu'on c'est palpable en interne qu'il y a certaines tensions. Moi je l'ai vécu aussi aujourd'hui, par exemple, quand sur RMC on a sorti l'information comme quoi Jacques-Henri Hérault allait probablement, j'ai pas dit que c'était fait, hein, on est bien d'accord, hein, j'ai dit que c'était une tendance forte qu'il quitte le conseil de surveillance. Ça a été vécu comme un drame absolu, que RMC sorte cette information. On a cherché à savoir quels étaient les informateurs. Enfin, ça respirait pas du tout la sérénité. Et en fait, c'est voilà, je pense que un club, ce n'est pas uniquement le secteur sportif, les résultats purs et durs et la deuxième place au classement. Il y a aussi une ambiance en interne. Et voilà, je profite de l'occasion quand même pour.
Et Flo, une question un petit peu peut-être, je dirais pas stupide, mais banal dans le sens que depuis de longues années, moi je me suis fait toujours une idée de ce qu'était un président et l'importance d'un président. Mais je pensais que Longoria, ce n'était pas le président que je m'imaginais au niveau de la fonction dans un club. Provisoirement, oui, mais pour moi, c'est le responsable du recrutement, c'est un recruteur, c'est un directeur sportif, et en plus de ça, il a aussi le rôle et les fonctions d'un président, et ça va durer longtemps, ça.
Bien sûr, il est président.
Attention, je dis bravo.
Président de l'Olympique de Marseille.
Je dis bravo parce que je m'imaginais pas qu'on pouvait faire autant de choses aussi importantes que ça dans un club. Je me l'imaginais pas.
Sache que ça a été un souci l'année dernière.
Il a l'âme d'un directeur sportif, messieurs.
Ça a été un souci l'année dernière parce qu'à un moment il a failli craquer nerveusement parce que il était en surmenage tellement il en faisait. Il a même été dans sa tête à un moment dans une réflexion pas loin d'un départ parce que il pouvait pas faire face à tout ce qui lui était proposé.
Javier Ribalta notamment est arrivé, qui est vraiment son bras droit pour le secteur sportif. Après, Pablo Longoria, coach, pour vraiment répondre à ta question, il a toujours l'âme d'un directeur sportif. Enfin, son dada, ça reste le mercato, les coups à faire, sentir les choses. Je vous donne un exemple. À la commanderie, il y a le secteur sportif et le secteur administratif, pour ceux qui connaissent. Il est souvent quand même au secteur sportif. Il est très attiré par la relation avec les joueurs, avec avec les agents.
C'est-à-dire le bilan commercial ou la gestion des sponsors, sportifs. C'est pas trop son domaine, quoi.
Au moins. Il peut, mais il y a un autre de ses adjoints qui est Pedro Iriondo, qu'on connaît assez peu, mais qui est chargé de cela. Il y a également Stéphane Tessier, un ancien de l'AS Saint-Etienne, qui s'occupe des finances. Bon, il est quand même staffé, et entouré. Mais sa passion première reste le domaine sportif. Lui, en termes de communication aussi, essaye de prend plutôt la stature, parce que on aime l'avoir en direct à la radio ou parfois le lire dans des interviews, ce qui est intéressant, Pablo Longoria. Mais malgré tout, ça reste avant tout quelqu'un qui vit et qui se plaît pour le domaine sportif.
Bon, on va quand même suivre ce qui se passe quand même en interne, hein, donc dans les bureaux, parce que des fois, ça peut avoir des conséquences sur le terrain, et notamment à Marseille, Roland a connu ça. Des fois, quand il n'y a pas unanimité parmi les dirigeants, ça peut être le bordel rapidement.
C'est un endroit compliqué déjà d'avoir une fonction à l'Olympique de Marseille. C'est compliqué. Si en plus tu es président, directeur sportif, recruteur, ça fait, pour moi, je dis que ça fait beaucoup, pour ne pas dire, ça fait peut-être un peu trop pour un seul homme.
Florent, merci beaucoup. On va débattre de Tudor, mais là, t'inquiète, on a Roland, je pense qu'on n'a pas
sur
besoin de toi. À moins que tu veux y rester, mais.
Quel est le sujet?
On voulait rebondir sur ce que disait Romain, là. Tu vois, Romain qui implore Tudor de surtout pas changer de système. Demain, l'OM joue à Angers.
Pas de système.
Reste avec nous, tiens. Reste avec nous, comme ça tu vas nous donner les infos du jour, puisque tu étais présent à la commanderie. Et puis le 32-16 est ouvert, supporters de l'OM. La Ligue 1 revient demain. C'est l'occasion de parler de l'OM qui espère repartir de l'avant, évidemment. Dès demain soir à Angers. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, coach Courbis est là avec nous ce soir dans l'after. Tout à l'heure, on parlera de l'Olympique lyonnais, on parlera des affaires au PSG avec les développements du jour. Mais pour l'instant, restons sur l'OM, parce que donc il y a un match demain à Angers. Oui ?
Non, écoute.
Non ?
J'en parlerai plus tard.
D'accord.
Je ne voulais pas te couper, pardon.
Il veut nous faire des surprises.
Hein. À quel propos ?
Non, rien, vas-y, continue. Retour de la prochaine pub, allez.
Ouais, très bien. Ok. Petite photo de tout à l'heure. Romain Calouti nous disait il faut absolument que Tudor garde le même système, qu'on ne change pas. Il y a quelques absents demain, suspendus, notamment Nuno Tavares. Bon, toi, tu es d'accord avec Romain Calouti, il faut garder ce système, il te plaît ?
Ben, c'est pas que je pense qu'il me plaît ou qu'il me plaît pas, mais je vois aucune raison de pouvoir changer de système, que ce soit dans un autre match ou que ce soit en cours de match. Je comprends pas.
Mais si Romain en parle, l'intérêt. C'est qu'il y a dû avoir quand même velléité de le faire, Florent, j'imagine.
Pas à ma connaissance. C'est vrai que Igor Tudor est fidèle normalement à ce système de trois défenseurs axiaux, des pistons.
Le schéma à la mode.
Je le vois pas changer, sauf quatre forces majeures. Enfin, on a quand même avant la trêve plaisanté et on a rigolé un petit peu jaune avec coach Courbis, enfin avec Roland, parce que vu tous les blessés qu'il y avait eu à un moment donné, on était persuadé qu'une défense à 4 allait s'imposer et il a préféré jouer avec Rongier sur les côtés et je sais plus qui était à gauche.
Ah mais non, l'exploit c'était Tavares arrière central.
Donc,
si tu l'avais mis dans un jeu pour deviner, c'est impossible.
Moi, la tendance, c'est qu'il change pas de système. Après, il a expliqué aujourd'hui.
Après, l'OM est invaincu en championnat, je le rappelle. Hein.
Bah oui, il faut pas. Non, il y a pas forcément de raison majeure à vouloir changer de système. Est-ce que c'est plutôt dans le management individuel des hommes? Est-ce qu'il peut changer quelque chose? Est-ce qu'il peut relancer un Bamba Dieng?
Il paraît qu'il est revenu, il paraît qu'il est plus affûté, et il paraît qu'il pourrait retrouver une place.
Il y a un truc moi qui me dérange. Je vais pas m'amuser à faire le professeur, mais par moment j'ai l'impression d'en être obligé, que ce soit à l'OM, que ce soit en équipe de France, que ce soit au Paris Saint-Germain. Les débats, c'est
est-ce qu'il faut changer de système? Mais c'est interdit de, d'avoir deux systèmes et de, par exemple, démarrer un match avec trois arrières centraux et suivant ce qui se passe à 30 minutes de la fin, tu enlèves un arrière central, tu mets un...
On avait dit que le débat équipe de France, on ne le faisait pas ce soir.
Mais c'est pas le débat équipe de France.
Ce que tu dis là, Roland, c'est ce que faisait un homme comme Sampaoli l'année dernière. Tout le monde le taillait toujours parce qu'il changeait toujours plein de systèmes en même temps. Peut-être qu'il devait le faire trop et ça devait chagriner les gens. Aujourd'hui, il a des joueurs Tudor qui entrent dans ce système-là. Moi, j'ai pas de système préféré. C'est plutôt l'esprit et l'animation d'une équipe qui m'intéresse. Après, effectivement, t'as raison. En cours de match, il peut éventuellement changer ou pas. Mais la situation de l'OM aujourd'hui, elle est claire. En Ligue des Champions, il n'y arrive pas, et c'était plus ou moins prévisible, parce que tu sens aucune de nos équipes françaises n'y arrive, ni en Ligue des Champions, ni en Europa League. Mais pour ce qui est du championnat, l'OM fait un parcours parfait, comme il n'a pas fait depuis très longtemps dans son histoire. Invaincu, comme le PSG, comme Lens. Il y a rien à dire sur ce qu'ils ont fait. Le calendrier, a été, on peut le juger plus ou moins difficile, mais celui de Lyon est pas plus compliqué, celui du PSG est pas beaucoup plus compliqué. Enfin bref, de toute façon, le calendrier, il est ce qu'il est avec les équipes de Ligue 1 qu'on sait globalement assez faibles, puisqu'elles nous montrent en semaine en Coupe d'Europe que finalement, elles ne sont pas très fortes. Et dans ce contexte qui est celui de notre Ligue 1, à savoir 8e, 9e nation d'Europe, eh ben l'OM a 20 points. Une moyenne largement plus élevée que 2 points par match, 0 défaite, le début de saison, il n'y a rien à redire. Vraiment, il est même plutôt excellent.
Mais oui, moi je rajouterai pas, c'est pas que je suis toujours mécontent, l'empêcheur de tourner en rond, mais ce que je rajouterai quand même, attendons, calmons-nous, bravo pour ce début de saison, et rapidement, je peux quand même m'occuper un petit peu des adversaires. Reims, Brest, Nantes, Nice, 3 jours après la prolongation.
Non, c'est bien, c'est l'équipe européenne, Nantes.
Nice aussi. Oui, bien sûr.
Ah oui, pourquoi?
Clermont, AGIA,
Lyon, ils ont pas rencontré des équipes, Lyon, il faut qu'ils fassent des suicides collectifs, mais non. Parce que leur calendrier est encore plus facile que ça.
Je te parle pas de Lyon, je te parle de l'Olympique de Marseille. Je dis bravo.
Bah oui.
Je dis bravo. Mais je constate quand même.
Mais c'est qui les équipes compliquées dans notre championnat, Roland, qu'il aurait fallu dans ta liste? Qui il aurait fallu de plus dur?
Lille,
c'est qui dur? Lille, ils les ont battus.
Paris Saint-Germain, Monaco,
c'est à part. Mais
Lyon,
Monaco.
Bah oui.
Monaco, l'équipe qui a perdu contre Ferencváros.
Ah ben attends, l'équipe qui a perdu contre Ferencváros, c'est une équipe qui aujourd'hui va peut-être s'améliorer et tu verras qu'à la fin de la saison,
elle s'améliorera. Mais aujourd'hui, le calendrier de Marseille est pas plus simple ou plus dur ou plus tout ce que tu veux que tous ceux qu'ont eu les autres équipes en fait.
Je te dis que dans le calendrier de Marseille, il y a une coïncidence. Je pose une question qui peut-être n'est pas une coïncidence. Dès que bizarrement on rencontre Tottenham, alors que la première mi-temps,
elle n'a rien à voir. La Ligue des Champions, ils n'y arrivent pas. La première mi-temps, ils y arrivaient.
Donc Francfort, mais là, c'est pour moi le match le plus décevant de ce début de saison. Et après, tu rencontres Rennes qui a joué le jeudi. Pour moi, le match nul contre Rennes, c'est une contre-performance. Eh ben, c'est ma vision.
Tu peux le voir comme une contre-performance. Rennes est en train de progresser, comme l'a dit fort justement Genesio aujourd'hui en conférence de presse. Après, tu peux pas mélanger Ligue des Champions championnat, puisque, comme je l'ai dit, malheureusement, il faut vraiment qu'on fasse une distinction nette. En Coupe d'Europe, on a un problème. Et le problème, c'est qu'il est même plus grand, c'est que depuis qu'on cherche à l'analyser, nous, il y a quelques semaines, quelques jours, une personne était venue pour nous donner des stats qui font peur, qui feraient peur à des enfants la nuit, tellement c'est horrible ce qu'on fait en Coupe d'Europe. Le pire, c'est qu'on n'arrive même plus à trouver des gens capables de nous expliquer pourquoi on est si mauvais en Coupe d'Europe. Les acteurs du foot français. Moi, j'ai tenté des explications sur justement notre prétention.
Chaque année, on est sur un jeu sort.
Le manque d'humilité qu'on a.
Pas de réponse.
La mauvaise approche qu'on a de ces compétitions. Je tente certaines explications. Les acteurs du foot te disent, nous ne comprenons pas pourquoi on est si mauvais. C'est terrible. Donc, distinguons la Coupe d'Europe du championnat. Le championnat, l'OM fait un parcours sans faute.
Pour le moment, Daniel, à l'Olympique de Marseille,
pour le moment, si on ne s'occupe pas, c'est pas la suite.
Si on, mais exactement.
Roland, ensuite.
Si on ne s'occupe pas des adversaires et de dire que l'OM a su profiter d'un calendrier qui était un calendrier sympa,
Lyon.
On va voir par la suite. Mais je
comme
crois
Lyon,
que le
comme
débat,
les autres, alors.
Le débat, c'était en ce qui concerne le système. Et moi, je donne comme idée que nous sommes, et des fois, je me mets un petit peu à la place, puisque les années passent vite et que ma carrière d'entraîneur, eh ben, j'y réfléchis, elle est derrière, et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette époque où il y avait la chance, je dis bien la chance, d'avoir la possibilité de faire 5 changements. Eh ben, je faisais 3 changements avant le match, en regardant un petit peu comment on allait se partager le boulot, et je gardais après deux changements pour savoir, en fonction de ce qui se serait passé dans la première heure, de voir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire.
Je comprends pas où tu veux en venir, en fait.
Mais je veux en venir que c'est ça le problème de la question de Tudor.
Oui, c'est la question.
J'ai mal compris.
Mmh. Non, c'était la question.
Doit-il changer son système? Et moi, je réponds, pourquoi, en cours de match, il pourrait pas y avoir un autre système pour terminer un match qui s'est peut-être moins bien placé que prévu dans la première heure?
La vérité, c'est que, mine de rien.
Je veux dire, Daniel, une fois que tu passes à 3 arrières centraux, il y a un règlement qui fait que tu es obligé de terminer avec 3 arrières centraux.
La vérité, c'est que, mine de rien, si je t'ai entendu.
Non, tu n'as pas répondu.
Mais je suis en train. D'accord. La vérité, c'est que Tudor, à part sur les 3 centraux, où là, il est, j'ai l'impression, réellement fixé sur cette idée-là, quand à un moment on a eu Guendouzi dans les 3 duos ou pas, c'était déjà une sorte de changement d'animation. Le fait que tu mettes un milieu de terrain, qui est à la base même plutôt un milieu défensif, dans les 3 du 3-4-3,
Dans les 3 offensifs.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est le match de Deschamps.
Bah, c'était, exactement. C'était déjà la volonté de renforcer un peu le milieu de terrain et de transformer ça plutôt en une sorte de 3-5-2, quelque part. Donc, les changements de système, il les a fait parfois avec des choix un peu étonnants. On a souligné un tout à l'heure, ou parfois, Colasina, qui est arrivé peut-être pour être un homme de couloir, on s'aperçoit que non, finalement, il est mieux dans les 3 de l'axe. Nuno Tavares, en cours de match, dans un choix un peu bizarre, est venu se mettre dans cette position. Il a rechangé tout de suite après. Hein, et c'est pas là qu'il faut qu'il soit. Il faut qu'il soit plutôt à l'extérieur, et c'est mieux qu'il soit à l'extérieur. Il a pas mal brassé quand même. Hein. On a l'impression qu'il est resté sur des choses un peu figées. Tudor, moi, je trouve qu'il a quand même un peu brassé, même avec Rongier, à qui il a demandé de changer une ou deux fois de place. Il a un peu varié, il a quand même varié, ne serait-ce que Payet titulaire, pas titulaire.
Oui,
des essais quand même.
Je donne mon avis.
Et le prochain, ça va être de remettre Dieng.
Je trouve qu'il a un effectif pour pouvoir se permettre, avec les calendriers qu'il y a, les matchs tous les 3 jours et tout, de changer avant même le match, de dire à 6 joueurs, toi tu rentres à 60e, et après on verra pour le 4e et le 5e changement, et la possibilité, ce qu'on peut appeler un plan A et un plan B, d'avoir la possibilité de démarrer dans une organisation et de terminer dans une organisation avec un offensif de plus, parce que sinon tu vas pas me dire que dans l'époque que nous vivons, avec les vidéos, les analyses et les machines, mais au bout de 2 mois, tout le monde va connaître ton système, les déplacements, les points forts, les points moins forts. Et bien là, il faut quand même un petit peu brouiller les pistes.
Alors, Florent, tu voulais ajouter un truc, après on accueillera Lucas pour conclure.
Non, mais je réagissais rapidement à ce que disait Daniel concernant le blocage un peu psychologique en Coupe d'Europe. Moi, j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça avec l'OM, parce que personne n'a su expliquer la contre-performance des Marseillais face à Francfort. T'avais l'impression que même c'était de l'ordre mental, en fait.
Mais Flo, c'est la même chose. Je me suis renseigné, j'ai demandé à des gens à Monaco. Ils sont circonspects, bouche ouverte. Comment ils peuvent perdre contre Ferencváros? Tous les ans, on a. Alors toi, tu me diras, la Ligue des Champions, c'est différent, et tu auras raison. Et peut-être qu'effectivement, il y a une approche mentale. Mais même en Europa League, tu parles avec les mecs, tu dis, mais comment on peut perdre contre ce genre d'équipe-là? Et on perd. Je crois, je le répète, je le dis souvent, je crois qu'on ne se rend pas compte dans les médias français, dans les experts observateurs comme Roland, on ne veut pas admettre notre vrai niveau. Il faut rebosser à la base. On se voit toujours trop beau, trop fort. On manque d'humilité. Au moment du tirage au sort de l'OM, La plupart des consultants, tes collègues et tes confrères disent l'OM va sortir. Et moi, je dis arrêtez, taisez-vous.
Mais si je te pose la question à la mi-temps de Tottenham, c'est peut-être toi qui te tais, qui se tais.
Pourquoi ?
Alors, ça aurait été un petit peu trop tôt.
Mais c'est un petit peu tôt quand même, à la mi-temps de Tottenham. Moi, j'étais à la mi-temps de Tottenham.
Je suis
Bouchoubert, trop long.
Finalement, on a une équipe qui tient la route en Champions League à l'extérieur, à Tottenham.
Mais après,
et d'un coup, patatrac.
Oui, mais Roland, après 45 minutes.
Fait ce tacle bidon,
après 45 minutes, j'ai pas sorti les tambours et les trompettes. J'étais content, j'étais bouche bée, je dis waouh! Pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Attention, ils ne créent rien. Ils ne font que contenir l'adversaire. Mais déjà, j'étais très agréablement étonné. J'en suis même arrivé, comme beaucoup de supporters marseillais, j'imagine, dans ce match-là, à fantasmer sur une maîtrise de ce score et un but en contre à la fin. Je pense que beaucoup de supporters de l'OM ont fantasmé ce scénario. Comme
la déception derrière
a été à la hauteur de ce fantasme-là.
Ouais, exactement.
Mais dans la foulée,
dans la foulée,
il y a eu l'OM. Après le scénar de la deuxième mi-temps, il y a eu l'OM contre Francfort, une énorme déception, et il y a eu les autres équipes. Et quand tu prends les autres équipes dans la gueule dans les fameux jeudis, tu te dis, il y a un problème global. Et ce problème global, c'est l'espèce de coton dans lequel on est enfermé, avec tous les commentaires de la presse, des experts, des consultants, qui voient toujours le football français plus beau qu'il l'est.
Allez, dans quelques instants, là, Lucas, avec nous,
Je fais très vite.
Ben non, parce qu'en fait.
On n'a pas le temps.
Okay. Mais t'inquiète pas, derrière, t'auras le temps de faire un peu moins vite, du coup. À tout de suite dans l'after pour conclure sur l'OM.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Brisbois.
Coach Courbis, exceptionnellement dans l'after ce soir, à 22h35 avec Daniel Riolo. On conclut sur l'OM. Florent Germain toujours avec nous. Après, on va parler de Paris, malheureusement, d'affaires extrasportives liées au PSG. Mais d'abord, on accueille Lucas qui est là. Salut Lucas.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va, super, merci bien.
Bah, merci d'avoir patienté.
Salut Lucas. Voilà.
C'est ta première dans l'after?
Exactement.
Bon, bah, tu es le bienvenu.
Merci beaucoup.
Alors, t'as écouté là le débat qui s'est installé. T'as un truc à dire là sur la position de Roland, celle de Daniel, de Florent, ou tu veux juste parler de Tudor?
Eh ben, moi, je dirais que son système à 3, c'est très bien, parce que c'est ce qui a fait sa force dès qu'il est arrivé, qui a marché jusqu'à présent. Mais moi, je crains que, comme disait Roland tout à l'heure, que justement, les équipes en face, elles travaillent aussi. Il faut pas oublier qu'elles travaillent avec la vidéo, etc. Et que, au bout d'un moment, on commence à se rendre compte que les équipes en face s'adaptent et commencent, à presser très haut les deux latéraux, donc, qui les empêchent de monter, commencent à gêner ce milieu qui est très travailleur avec Rongier qui fait un taf incroyable depuis le début de la saison. Mais on se rend compte qu'au final, ils arrivent à couper un peu cette équipe en deux. Et on se rend compte que, à force de s'entêter dans ce système à trois, là, que, au bout d'un moment, ça marchera plus. Parce que là, pour l'instant, on a joué que des petits, comme disait Roland, entre guillemets, des petits, même si on a joué Lille et Nice. Bon, Nice, tu le joues après une prolongation en Europa League où ils sont complètement rincés. Et tu joues Lille. Mais Lille, pendant les 30 premières minutes, tu vois pas le jour, parce que même moi, j'étais au stade, j'étais comme un ouf. Je me disais, mais c'est pas possible de se faire balader comme ça pendant 20, 30 minutes d'entrée.
Quelle équipe a mieux joué que l'OM depuis le début de la saison? En Ligue 1?
Lens.
Ouais, Lens, ouais. Okay. Lens, ouais, ils font un très bon début de saison. Mais après, je suis d'accord sur le niveau global de la Ligue 1. Je suis d'accord que Marseille s'en sort
Lorient.
Bien.
Non, mais Lorient, tu vas pas me prendre aujourd'hui. Oui,
Lorient,
tu vas me dire aujourd'hui que toi.
Mais je réponds à ta question.
Non.
Quelle équipe depuis le début?
Tu me dis que
Lorient. Ça marche pas.
Lorient.
Donc, il y en a pas, Daniel. Il y a pas d'équipe.
Mais Lorient, ils sont derrière l'OM au classement.
Ma réponse.
Lorient, ils sont derrière l'OM au classement.
Non, mais je vous espérais quand même que Lorient va tenir derrière l'OM à la fin de la saison.
Est-ce que les gens ont réellement vu tous les matchs de Lorient? Parce que c'est bien beau de s'enflammer. Moi, je m'enflamme, je les ai vus. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, toi qui aimes bien les paris, je te dis, pose une mallette avec je sais pas combien de billets dedans et tu me dis, moi, je mise que Lorient, il termine devant l'OM à la fin de la saison. Fais-le-moi ce pari.
Ah, ben, pas une seconde.
Bon, ben voilà. Donc calmons-nous sur les équipes supérieures à l'OM. Donc moi je vous repose la question, quelles sont les équipes supérieures à l'OM depuis le début de l'année? Personne, à part le PSG, personne. Voilà. Donc moi, cette espèce de climat à Marseille, déjà l'année dernière, vous avez fait le coup pendant un an. Pendant un an, Sampaoli, ça devait s'écrouler. Il y a tout eu, à part la gale et la rage, il y a tout eu à l'OM l'année dernière. Il n'y a pas eu la préparation, il n'y a pas eu les bons joueurs, il n'y a pas eu les bons choix.
Tu nous l'accordes pas.
Franchement, il fallait une tornade, un cyclone, la gale et la rage à l'OM, tellement c'était une catastrophe. À la fin, ils ont fait deuxième. On a l'impression que certains Marseillais, ça leur a cassé les couilles qu'ils fassent deuxième. Tellement ça les a fait chier que Sampaoli fasse deux. Cette année, ça extraordinaire. Moi, je sais pas. Il y a un climat de sinistros à l'OM. J'arrive pas à comprendre, moi. Peu importe qui gagne.
Tu veux y répondre là-dessus?
Je comprends pas. Attendez que ça s'écroule. On aura le temps de chialer quand ça va s'écrouler.
Je suis d'accord avec Daniel sur le fait que
putain, c'est dingue
quand
même.
On a pas assez mis en valeur le début de saison de l'OM pour moi. Je trouve que c'est
dites-moi la dernière année que l'OM ils ont fait un tel début de saison.
Laisse parler Florent.
C'est quand la dernière fois Flo.
Mais je te l'ai dit tout à l'heure, mais t'écoutes pas ton auditoire et tes amis autour de la table. Je t'ai dit que c'était historique, donc je cherche pas de comparaison.
Mais j'avais envie que tu le redises, excuse-moi. J'avais envie que tu le redises.
Donc je te le redis. Bon. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté qu'on n'a pas assez mis en valeur le bon début de saison de l'OM. Après, il y a toujours cette Ligue des Champions qui, comme ce fut le cas également l'année Villas-Boas ou autre, hein, vient un petit peu entacher les choses parce que tu as le sentiment que t'es pas au niveau, voire tu touches à la réalité de la très haute compétition et là tu te ramasses un petit peu. Donc cette Ligue des Champions peut-être ternit pour moi le bon début de saison de l'OM. S'il y avait eu par exemple une victoire contre Francfort, je pense qu'il y aurait eu un enthousiasme global. Mais
on a eu droit qu'à une mi-temps qui
un petit peu plombé les choses,
qui nous a donné l'espoir cette première mi-temps contre Tottenham et après patatrac.
Ouais, mais c'est pas assez. Et je voulais juste rajouter un mot parce que vous parliez de Tudor et Luca l'auditeur aussi en parlait. Moi, où je l'attends plus quelque part, c'est sur son management de certaines individualités. Il a eu des soucis avec Gerson, ça a été compliqué. Lui a été boudeur. Je dis pas que c'est de la faute.
Je suis pas sûr que ce soit
Tudor,
arrangé entre les deux.
Pas sûr et certain, mais il a quand même annoncé aujourd'hui qu'il devrait être titulaire demain contre Angers, donc c'est déjà une manière de lui tendre la main. Comment a-t-il réussi à gérer le cas Payet? Moi je disais il y a une quinzaine de jours que fallait profiter de cette trêve internationale pour crever l'abcès, et qu'il y ait plus de véritables soucis, parce que c'est pas normal. Tu peux pas considérer que c'est normal que Dimitri Payet soit devenu un remplaçant et que c'est à peine à signaler alors que c'était le leader de Sampdoria la saison passée. Le Kabamba Dieng, on en parlait, et pour moi autour de ça il n'y a pas énormément de changements à attendre, hein. Il est peut-être enfermé sur ce système, mais en même temps c'est ce qui fait sa force parce que les joueurs disent qu'ils savent où ils vont, ils savent comment joue Tudor, ils ont compris son envie. Moi j'ai vu des matchs où l'OM réussissait quand même à étouffer l'adversaire, ils ont fini un petit peu fatigués avant la trêve, mais je suis désolé, on a vu des scènes et des matchs où au milieu de terrain il y avait un harcèlement sur le porteur du ballon. Ça fait quand même quelques saisons qu'on n'a pas vu cela. Donc pour moi, il y avait vraiment une patte Igor Tudor, mais c'est plus dans le management de certains joueurs et des joueurs importants que Igor Tudor doit peut-être un petit peu évoluer ou essayer de qu'il y ait un déclic.
Merci Flo. Demain merci Angers, bien sûr, sur RMC. Je remercie également Lucas au 32-16. Salut Lucas.
Salut les gars, à bientôt.
Salut,
à bientôt. Voilà pour.
Guette bien s'il n'y a pas des cadrages à l'OM parce que ça va vraiment pas à Marseille dans les rues là. Oula.
Dans un instant, les affaires du PSG, mais d'abord je vous rappelle qu'RMC vous offre la possibilité d'assister à un match de la Coupe du Monde, le match France-Tunisie, vous le savez, qui a lieu le 30 novembre. On vous offre le vol, l'hébergement, les places de match, tout est aux frais d'RMC. Alors il y a un tirage au sort, il faut s'inscrire. Et pour s'inscrire, c'est très simple. Vous envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16, et le gagnant sera avec nous le 30 septembre, donc demain en l'occurrence. Le tirage au sort se fera, donc vous avez encore quelques heures pour vous inscrire. Dans un instant, les barbouzes du PSG, c'est comme ça qu'on les appelle désormais, qui sont entendus par la police. Roland, tu fais des gros yeux. Attends, ça t'a échappé cette histoire? On va te raconter tout dans quelques instants.
Bah oui.
Ne bouge pas, c'est dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h45, Daniel Riolo est là, coach Courbis est là, c'est l'after jusqu'à minuit. Lyon est au programme tout à l'heure après l'interview de Bruno Genesio dans la revue de l'after, on va en parler. Il explique que s'il avait fait la saison de Peter Boss, il se serait fait sans doute énormément critiquer. Ça fait débat à Lyon, on va donner notre avis bien sûr. Mais d'abord les affaires du PSG. Aujourd'hui, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire avec les chefs d'inculpation suivants. aide à l'entrée ou au séjour irrégulier, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence, détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, complicité et recel, violation du secret professionnel, bref, tout ça concerne trois personnes à qui la justice reproche d'avoir consulté, collecté des informations provenant de fichiers confidentiels. Parmi eux, il y a un ex-policier qui donc avait un accès, on en parle depuis plusieurs jours maintenant, à des fichiers, à des informations qu'il aurait dû garder confidentielles. En tout cas, il a utilisé ses anciens réseaux pour avoir accès à tout cela. La justice explique que ces trois hommes se faisaient payer pour transmettre ces informations secrètes et non publiques. Voilà, on parle d'obtention de cartes de séjour, d'informations sur les procédures judiciaires en cours. Donc ils ont été déférés aujourd'hui, ces trois personnes, et ils devraient être mis en examen ce soir si c'est pas encore fait. On en sait un peu plus sur leur profil. Il y a deux anciens policiers, un dénommé Mali, qui est un de ses collègues, le fameux Mali, qui était référent supporter au PSG, qui était un grand fan du PSG, qui rêvait de bosser au PSG, qui a quitté la police pour entrer au PSG, et qui derrière donc a commis ces actes répréhensibles. Et puis donc un autre policier mis en examen, plus l'homme d'affaires franco algérien dont on a parlé hier, Tayeb B, qui est au centre d'une affaire connexe, vous le savez, arrivé à Doha en 2019 avec femme et enfant. Il est en possession de documents sensibles, notamment d'éléments relatifs à la vie privée de Nasser Al-Relaifi. Il a été arrêté sur ordre de l'émir en janvier 2020, selon Libé, qui l'expliquait hier. Il a alors été torturé, interrogé sur ces documents. Bon, les choses évoluent aujourd'hui dans le sens où il y a mise en examen, l'enquête est en cours. Nasser El-Halafi, par l'intermédiaire de son entourage et de son avocat, aujourd'hui s'est défendu en disant qu'il n'avait rien à voir avec tout cela. Donc là, on est sur un version contre version. Libé mène une enquête très fouillée qui était dans le journal de ce matin et sur le site hier, qui contredit ce que dit Nasser El-Halafi aujourd'hui. Hein. Donc on va voir ce que va dire la justice. Mais enfin, là, on est quand même une nouvelle fois dans une situation assez dingue, avec un personnage ultra puissant du foot français, du foot européen, qui est vraiment dans la tourmente une fois de plus, parce qu'il y avait déjà eu des affaires le concernant, notamment sur l'attribution de la Coupe du Monde.
C'est ce qu'ont dit ses avocats. On peut pas l'entendre. Ça veut rien dire du tout, parce qu'évidemment qu'il a à voir avec l'histoire. Maintenant, ce qui reste à déterminer et ce qui sera le plus important, et je vais pas dire des choses très différentes de ce que j'ai dit hier soir, c'est que autour du PSG, il y a une galaxie de plus en plus opaque, d'hommes de plus en plus louches, ça c'est certain, et autour du président encore plus, que certainement il y a des choses vraies dans ce qu'a dit l'enquête de Libé, à savoir que il a voulu avoir des appuis et des relations dans la police lui ont servi à avoir des dossiers sur des gens, ça c'est fort probable. Maintenant, est-ce que c'était sur des gens qui lui voulait du mal ou qui voulait profiter du PSG, c'est également possible, et ça c'est l'enquête qui le déterminera.
C'est ce qu'on dit à Paris, hein, on parle de gens qui voulaient briller plus que dans un réseau structuré.
Et notamment le, j'ai pas son nom de famille, à Tayeb, j'oublie toujours, je sais pas si tu l'as.
Oui.
Mais lui, clairement, ce qui ressort des premières enquêtes qu'on a pu mener, c'est un type très peu recommandable, qui très rapidement a voulu monter, s'est fait des relations dans le PSG, qui a voulu monter des affaires louches en région parisienne et notamment dans la ville d'Asnières, où il s'est proposé pour monter des commerces. Ce gars-là a ensuite disparu de la circulation, sans donner d'adresse. On l'a retrouvé à faire des affaires dans le Golfe. Il a eu ensuite en main des documents compromettants sur Nasser Al-Khelaifi, mais encore une fois, si c'est sa vie privée, que ça termine sur des clés USB et qu'on veut faire chanter une personne, qui est dans l'illégalité? C'est probablement le maître chanteur qui est là d'un niveau international. Après, qu'il ait voulu fricoter avec des gens, et peut-être qu'il aurait pas dû parce que ça s'est mal terminé pour lui au Qatar où il s'est fait attraper, mais je pense qu'on est plus dans une espèce de galaxie très confuse, et je me garderais bien d'avoir une opinion tranchée sur cette affaire et sur ce qui se passe. Si tu me dis Nasser Al-Relaifi aurait dû faire attention à son entourage et devrait plutôt contrôler ce qui se passe autour de lui, tous les croqueurs, les profiteurs et tous ceux qui veulent se gaver, ça je dirais oui. Savoir s'il est coupable de quoi que ce soit, oui, non, dans le climat actuel, avec des influences politiques anti-Qatar,
qui est au moins coupable de négligence là-dessus.
Exactement, qui se télescope avec du pro-Qatar, à 50 jours de la Coupe du Monde, ça je le dirais aussi. Donc je préfère me méfier sur le dénouement de ces histoires.
Ah mais c'est difficile de rajouter quoi que ce soit sans qu'on puisse ne pas avoir quelques petits détails supplémentaires. Mais bon, une fois de plus, ben une affaire sort. Décidément, c'est une période à faire.
Alors on en a une autre, enfin alors une affaire. En tout cas, c'est on va dire un conflit de personnes qu'on connaissait hein, entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Hier, Julien Fournier, ancien directeur général de Nice, était avec nous dans l'after et il a expliqué avec des mots assez inattendus que bon bah il s'entendait pas avec Galtier, il confirmait et qu'il s'était passé des choses dont il ne voulait pas parler précisément, mais je reprends ses mots qui pourraient empêcher, si ça se savait, Galtier d'entraîner en France et en Europe.
Bon, encore une affaire.
Oui, on était assez surpris hier. Hein. Bon, on n'en sait pas plus à ce stade sur ce que sous-entendait Julien Fournier, mais Christophe Galtier.
Si, on en sait plus sur ce qu'il sous-entend, parce que c'est des choses qu'on entend depuis longtemps. Sont des choses.
Ça nécessite une enquête pour avoir des preuves.
Exactement.
Voilà.
On en sait plus. On sait exactement de quoi il parle, sauf qu'on ne l'évoque pas pour l'instant parce que ce sont des dossiers très sensibles et qu'on préfère être sûr avant de mouiller qui que ce soit dans des affaires un peu compromettantes. Mais ce qu'il sous-entend, et je pense qu'énormément de gens ont également compris, et ils comprendront qu'on ne va pas trop se mouiller pour l'instant. Ce n'est pas qu'on ne veut pas se mouiller, c'est qu'il vaut mieux être sûr. J'ai quelques procès en cours. Je vais éviter d'en avoir un de plus.
Voilà. Hein,
parce que
donc, quand on aura les preuves, on dira.
Je pense que. Non, mais moi après, j'ai pas de problème. Hein. Quand j'y vais, ça se passe plutôt bien. Je touche du bois. Pour l'instant, quand je dis quelque chose, ça se vérifie. Là, c'est, je trouve, encore plus sensible que les autres dossiers.
Alors, écoutez, Christophe Galtier.
Donc, je vais juste attendre encore un peu parce que voilà.
On écoute Galtier qui a tenu à répondre aujourd'hui.
Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. Quand on est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il a une grande exposition. Je ne peux pas et je ne veux pas me fatiguer, m'épuiser à répondre ou à débattre sur tout ce qui se dit. Parce que la fonction fait que automatiquement on crée un débat après l'autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris, connaissant le personnage.
Alors aujourd'hui, dans les réactions des uns et des autres, les gens ont plutôt eu tendance, à l'image de Jérôme Bretagne par exemple, à prendre la défense de Christophe Galtier en disant mais en fait, Julien Fournier, soit il dit ce qu'il a à dire, soit il dit rien, parce que c'est-à-dire que là il sous-entend des trucs sans aller jusqu'au bout.
Il n'y a pas à prendre la défense ou pas la défense. Il n'y a pas à prendre la défense de façon exagérée de Galtier comme a fait Jérôme. Je suis pas d'accord avec lui. Il y a plutôt à savoir, ça c'est notre boulot, ce qu'il a réellement voulu dire, même si je répète, je pense le savoir, je veux juste avoir des preuves un peu plus tangibles que ce que j'ai, mais il n'y a pas à dire qu'on prend la défense de Galtier. Non, non, on veut savoir ce que c'est tout. Quand un quelqu'un dit qu'il a été un proche, parce que c'est vraiment un proche, ça l'a été, ils ont travaillé ensemble, si je dis ce que je sais, il ne remet plus les pieds dans un vestiaire, ni en France, ni en Europe, pardonnez-moi d'avoir la curiosité de savoir ce que c'est quand même. Je veux au moins qu'on me donne le droit d'être curieux. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent ont également envie de savoir.
Oui, évidemment, donc, tout le monde veut savoir.
Donc, je ferai en sorte, on fera en sorte, toutes nos équipes ici, la rédaction, et je peux vous dire en plus que la plupart des rédactions un peu partout en France sont mobilisées sur cette question et cherchent à savoir. Et on va essayer de savoir ce qu'il a totalement voulu dire et avec des preuves. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas à vouloir défendre l'un ou l'autre. Il y a à vouloir connaître la vérité, c'est tout.
On ne va rien rajouter, mais on peut quand même rajouter il n'y a pas de fumée sans feu.
Oui, de toute façon, oui, il y a quand même une grosse fumée.
En général, effectivement, Roland, c'est comme ça que ça se passe. Dis-moi, coach, alors, je sais que toi, t'aimes plus parler de jeu et tout.
Ben oui.
Mais là, on est quand même dans un contexte où les affaires, il y en a une qui sort par semaine, là. C'est un truc de fou, quand même, non?
C'est assez impressionnant.
Mais est-ce que ça te trouble ou est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans notre foot pour qu'il y en ait autre?
Ben, c'est même pas seulement dans le foot, Daniel, avec tout ce qu'on voit à droite et à gauche, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qui se passe sur notre planète, qu'est-ce qui se passe dans les habitudes que nous avions. Là, je suis quand même inquiet pour le présent et pour l'avenir, et malheureusement pour l'avenir très très proche. Parce que là, il y a par moment, je me pèse, je dis mais c'est
t'aimerais être encore sur un bateau tranquille. Couper un peu de tout ça. Ouais, moi aussi, je peux m'emmener. Bien,
parce que depuis, franchement, j'ai bien compris, coach Courbis, t'es inquiet pour l'avenir de la planète.
Ah oui.
Non, mais où je rejoins Roland, parce que je sais que Roland, c'est c'est un vrai passionné de foot et il préfère parler de sacs d'affaires. Ça intéresse pas. Non. Et honnêtement, moi, depuis le début de la saison, depuis qu'on est rentré de vacances, les gens croient peut-être que ça nous amuse. Alors oui, une fois qu'on y est, notre métier, c'est d'être excité par ça et de vouloir la vérité et d'enquêter, d'en parler le soir parce qu'on est bien obligé d'en parler.
Tu sais qu'on a beaucoup de messages qui nous disent ouais, vous vous acharnez, c'est toujours le PSG, sur le PSG. Non, mais, non, on n'y peut rien si ça touche le PSG.
Franchement, je préférerais faire autre chose. Moi, il y a quelques là entre les affaires des meufs du PSG, ça maintenant
les affaires
le PSG,
de la Fédé,
Galtier, les affaires de la Fédé, Pogba, on en parle même pas. Franchement. Si les gens pensent que ça nous amuse, moi, par moi, j'ai à force d'être au téléphone toute la journée, j'ai la tête qui, je préfère partir sur un bateau en Corse avec Roland, et revenir quand on parlera foot et quand on fera les soirées Coupe d'Europe.
Ouais, j'essaierai.
C'est vraiment, c'est pénible parce que c'est notre passion. Nous, on préfère parler ballon.
Si j'essaierai de te battre à celui qui prend le plus de poissons.
Ouais, mais non, ça, c'est ce genre de truc là, je pense que tu me bats. La pétanque, les conneries.
Mais Daniel Péché, c'est pas possible.
Non, en revanche, manger le poisson, oui. Là, il me bat. Je sais pas s'il me bat là. On va peut-être même là aussi.
Allez, 22h57, pardon. Dans un instant, c'est l'OL qui est au programme de l'After. Et puis, tiens, petite surprise, dans un instant, on a un nouveau classement qu'on va inaugurer ce soir. Ah. Oui, c'est le classement des Pinocchio de la Ligue 1. Roland. Ouais, tu vas voir ça, c'est pas mal. C'est dans quelques instants.
Comme Roland a fait un jour un livre où il a mis Pinocchio en couverture, il doit s'y connaître un peu.
Ah, exactement.
il me tarde de pouvoir.
Fameux livre, pourquoi mentir pour l'interrogation. Oui. On a toujours pas la réponse.
Ben non.
Allez, à tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot.